Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Si je peux vous donner un conseil, faites du vélib la nuit.
Bonjour à tous, c'est la journée nationale de la qualité de l'air aujourd'hui en France. Et autant dire qu'on a de quoi s'inquiéter pour les 364 jours restants. Dans l'Hexagone, mais aussi chez nos voisins. L'étude que vient de publier l'ONG European Heal révèle que la pollution dépasse souvent les limites admises dans les écoles de 6 capitales, Londres, Paris, Berlin, Madrid, Sofia et Varsovie. Comment changer cela si ce n'est en garant sa voiture? On vous parle donc circulation à vélo dans Accent d'Europe et surtout sécurité pour encadrer cette pratique douce qui fait du bien à l'environnement et à nos poumons. Les cyclistes se mettent-ils en danger? On peut parfois le penser, en tout cas certaines pratiques devraient être tout simplement interdites, comme le portable à vélo. C'est chose faite depuis le 1er juillet dernier aux Pays-Bas. Les contrevenants se voient désormais infliger une amende. Une nouvelle législation que l'on doit beaucoup à l'acharnement d'un père endeuillé. Il fait aussi de la prévention dans les écoles. Antoine Moutot l'a suivi à Vasnard, près de La Haye.
La salle de théâtre de l'école Adelbert se remplit petit à petit. Dans ce collège de Vassenard, dans la périphérie de La Haye, une centaine d'enfants de 10 à 14 ans sont venus assister à une séance de prévention routière, ou plutôt prévention cycliste.
En vandaag is een bijzonder moment. Jullie krijgen zo meteen een indrukwekkend verhaal te horen van Michael Culkins.
Une fois tout le monde installé, Michael Culkins fait son apparition sur l'estrade.
Goedemorgen allemaal.
Bonjour à tous, je m'appelle Michael Culkins. Le garçon que vous voyez derrière moi sur l'écran, c'est mon fils Tommy Boy. Tommy Boy est mort.
Le samedi 22 août 2015, Michael Culkins a vécu le pire moment de toute sa vie. Son fils de 13 ans a été renversé par une voiture alors qu'il roulait à vélo dans leur village de Kortenhof, à une trentaine de kilomètres d'Amsterdam.
Connaissez-vous la chanson que l'on vient d'écouter? C'est un morceau de DJ Tiesto. La dernière chose que mon fils Tommy Boy a entendue. Car à mi-chemin, sur son vélo, il a regardé quelques secondes sa playlist sur son téléphone.
Un court instant d'inattention, obnubilé par son téléphone, les écouteurs sur les oreilles, Tommy Boy n'a pas vu la voiture arriver de la gauche, une mère de famille au volant avec ses trois jeunes enfants à bord. Depuis la disparition de son fils, l'insécurité routière et surtout l'utilisation de smartphones à vélo obsèdent Michael Culkins. Ces quatre dernières années, il en a fait un combat de tous les jours avec sa fondation The Butterfly, au nom de la dernière chanson qu'a écouté son fils. Il fait 3 à 4 fois par semaine le tour des écoles du pays pour demander aux enfants de ne pas utiliser leur téléphone lorsqu'ils roulent à vélo.
Vous ne recevrez jamais un message sur votre téléphone qui est tellement important qu'il exige une réponse immédiate alors que vous vous déplacez à vélo. Non, aucun texto ne vaut la vie d'un enfant. La plupart du temps, quand vous recevez un message de vos parents, c'est pour savoir, par exemple, si vous voulez manger du chou-fleur ce soir. S'ils ne comprennent pas pourquoi vous ne leur répondez pas tout de suite, expliquez-leur que vous étiez en train de rouler. C'est une bonne excuse.
Dans la salle, on trouve quelques professeurs et des représentants des parents d'élèves, souvent très émus et heureux du passage de Michael Culkins. C'est le cas de Daphne Overkerk, directrice adjointe de l'école.
C'est bouleversant, pour nous comme pour les enfants. Mais je pense que c'est justement important que ça les marque. Car une histoire abstraite, ça leur passe au-dessus de la tête, alors que là, le message les marque vraiment.
Même constat pour Claire Mulder, qui a ses enfants scolarisés ici.
Les smartphones, c'est bien pour communiquer, mais parfois c'est trop, je trouve. Il y a souvent les jeux et la musique. Il est temps que les enfants se rendent compte du problème.
Michael Culkins n'est pas seulement connu aux Pays-Bas pour la prévention dans les écoles. Depuis peu, il est aussi associé au combat pour l'interdiction de l'usage du smartphone en vélo.
6 mois après la mort de mon fils Tommy Boy, j'étais dans ma voiture et j'ai entendu à la radio la ministre chargée de la question dire qu'il n'y aurait pas de loi pour interdire l'usage du smartphone en vélo. C'est là que je l'ai contacté pour lui montrer les milliers de messages que j'ai reçus de personnes qui ont eu un accident, ont perdu un proche ou à qui cela a failli arriver.
Désormais, en grande partie grâce à la pression de Michael Culkins, une loi en vigueur depuis le 1er juillet dernier prévoit une amende de 95 € pour tout cycliste pris en flagrant délit en train d'utiliser son smartphone en roulant. En 2018, aux Pays-Bas, malgré des infrastructures cyclables très développées, 228 personnes ont perdu la vie sur leur vélo, soit une vingtaine de plus qu'un an auparavant. Michael Culkins espère que la mort de son fils et son combat auront au moins servi à sauver quelques personnes.
Ils ne sont pas contents, les cyclistes espagnols, et pourtant, ils sont de plus en plus nombreux à circuler sur des vélos en libre-service. 65 000 abonnés, un succès à Madrid, mais très très peu de pistes cyclables en propre. En Espagne, les explications de François Musso.
L'ancienne équipe municipale, issue de la gauche radicale, ne jurait que par la bicyclette lorsqu'elle arrive au pouvoir en 2015. Les résultats sont aigres doux. Oui, le vélo est beaucoup plus présent, mais force est de constater que la solution envisagée ne plaît pas à l'immense majorité des cyclistes. En avril dernier, ils étaient d'ailleurs des dizaines de milliers à manifester dans les grandes artères de la capitale, notamment sur la Castellana, pour exprimer leur ras-le-bol et leur colère. On pouvait lire sur les pancartes « Nous voulons un réseau cycliste exclusif, protégé, sûr et pratique ». Car aujourd'hui, ce qu'on appelle le modèle Madrid, c'est la même politique appliquée depuis longtemps et réaffirmée par la maire sortante Manuela Carmena, à savoir un système de coexistence entre le vélo et la voiture. Le vélo peut circuler un peu partout, mais dans l'immense majorité des cas, il doit se frayer un chemin dans la jungle des automobiles, sur les mêmes voies, ce qui constitue un exercice périlleux. D'ailleurs, la Direction Générale du Trafic indique qu'il y a eu 5000 cyclistes accidentés l'an dernier, dont 36 morts. En 10 ans, on recense à Madrid une augmentation de 510% du nombre de bicyclettes, mais seulement de 1% de ce qu'on appelle la répartition modale, c'est-à-dire la proportion de gens qui la choisissent comme moyen de transport prioritaire, contre par exemple 6% à Séville. L'engouement est dû en partie à un des succès municipaux, Bicimad, un système de location bon marché et public de vélos électriques qui compte 65 000 abonnés et jusqu'à 16 000 voyages par jour. L'ennui, insistent les usagers, c'est donc de ne pas disposer de couloirs propres suffisants. 21 km de plus seulement cette année, c'est très peu pour une ville de plus de 3 millions d'habitants. Et l'avenir n'est pas forcément rose. Le nouveau maire, le conservateur José Luis Almeida, parle de supprimer de récents couloirs aménagés par sa prédécesseur. Come cycling, just try it and you'll see. Come cycling, you'll love it just like me. I love to go with cycling, it's just the best thing out. It's the best way to keep fit, the best to get about. Come cycling, just try it and you'll see. Come cycling, you'll love it just like me.
Strasbourg, c'est un peu la capitale française du vélo. 8% des citoyens qui habitent Strasbourg utilisent leur bicyclette tous les jours. Un chiffre qui grimpe à 16% si l'on ne parle que des actifs. Strasbourg est globalement bien équipée en pistes cyclables, mais les accidents existent. En juin dernier, un homme de 61 ans est mort, percuté par deux voitures. Hypercentre engorgé, grandes artères difficiles à traverser. La ville a encore du travail pour améliorer la circulation à vélo. Reportage en deux roues, bien sûr, signé Robin Dussène.
Avec ses 600 km de pistes cyclables, ses 19 000 arceaux de stationnement et ses 6 000 bicyclettes en location, on peut dire que Strasbourg est la capitale française du vélo. Pourtant, quand on traverse le centre, il n'est pas rare de devoir poser le pied à terre. Si la ville est dans l'ensemble bien aménagée pour les cyclistes, l'hypercentre reste difficile à circuler.
Toute l'île du centre-ville, moi je trouve que c'est une catastrophe en vélo.
Martine enfourche son vélo tous les jours pour se rendre à son atelier de peinture. Pour elle, le problème vient des zones de rencontre, ces espaces de circulation où les piétons ont la priorité absolue, mais qui restent accessibles aux cyclistes et aux automobilistes.
Rien n'est prévu. Ils appellent ça zone de rencontre. Moi, je traduis ça, débrouillez-vous. Je vais tout doucement. Je m'en sers quand même. C'est trop bien d'aller en vélo faire ces petites courses. Mais c'est chaque fois galère. Si je veux voir la cathédrale, je fais 36 détours par des rues où il y a presque personne. C'est très mal foutu et même dangereux.
Dans le centre de Strasbourg, cyclistes et piétons peuvent parfois se partager les mêmes artères passantes, ce qui peut créer des accidents. Florence en a fait les frais il y a 6 mois.
Je me promenais place Saint-Étienne. Je regardais bien autour de moi et devant moi. Surgit un jeune homme en vélo qui ne s'arrête pas, qui me rentre dedans et qui me dit « Ah, je vous avais pas vu ». Mais comme je suis une grand-mère encore bien énergique, en fait, je l'ai repoussé de mes deux mains. C'est lui qui est tombé et c'est lui qui a eu mal.
Plus de peur que de mal pour la prof retraitée. Depuis 1975 et la création de la première piste cyclable, le vélo s'est fait une place à Strasbourg. Mais la capitale alsacienne reste un élève moyen au niveau européen.
On est très loin de villes comme Amsterdam ou Copenhague par exemple.
Jean-Baptiste Gernet, l'adjoint au maire de Strasbourg, en charge des mobilités alternatives.
Ce qu'on essaye de faire, c'est de réorganiser l'espace pour distinguer davantage les flux entre les piétons et les cyclistes. On essaye aussi de mettre du stationnement autour du plateau piétonnier pour que les cyclistes s'arrêtent au bord du plateau piétonnier et continuent à pied, notamment quand ils vont faire leurs courses. Mais c'est pas parce qu'on est la première ville cyclable de France qu'on a réalisé tous les aménagements qu'on doit faire. On doit chaque année faire de nouveaux aménagements pour continuer à prendre de la place à la voiture.
Au-delà des infrastructures, une solution pourrait être de verbaliser davantage. En tout cas, Fabien Masson y est favorable. Il est directeur de Cadre 67, une association qui milite depuis plus de 40 ans pour la promotion du vélo à Strasbourg.
Malheureusement, en France, pour faire respecter le code de la route, il faut verbaliser. Et on trouve qu'à Strasbourg, on ne verbalise pas assez, pas forcément les cyclistes, hein, mais aussi les piétons qui font n'importe quoi, des voitures qui stationnent sur les aménagements cyclables. Donc faire respecter ce qu'on appelle le code de la route. Et là, je pense qu'il y a encore un pas à franchir pour arriver à des bonnes qualités de cyclabilité.
Selon le dernier bilan de l'accidentologie dans l'Eurométropole, sur les 134 accidents de vélo en 2018, seuls 10 impliquaient des piétons.
Pourquoi il n'y a pas l'accident ? Parce qu'on est face à des modes de déplacement qui sont peu rapides, donc on a le temps de réaction qui est suffisamment long pour pouvoir freiner et éviter l'accident. Donc il y a ce ressenti de mal-être entre les piétons et les cyclistes, mais au bout du compte, il n'y a pas d'accident.
Strasbourg, l'avenue des Vosges reste une autre problématique pour les cyclistes. Ce boulevard extérieur permet de contourner le centre-ville et voit passer chaque jour plus de 21 000 véhicules. Et même si la chaussée est passée au printemps dernier de 5 à 3 voies de circulation pour faire une place aux cyclistes, l'avenue reste très accidentogène.
C'est pas toujours adapté et pratique parce que, par exemple, quand on veut tourner à gauche sur le grand boulevard, on est coupé par les voitures, donc forcément on gêne.
Mathilde est arrivée de région parisienne pour ses études d'orthophonie. Alors forcément, le vélo comme moyen de locomotion, c'est plutôt nouveau.
Et puis c'est pas très agréable de rouler juste à côté des voitures. La piste, elle est parfois encombrée, donc c'est pas encore top, mais on progresse.
Depuis 2 ans, les premières vélorues de France ont été aménagées à Strasbourg. Dans ces rues cyclables, ce sont les vélos qui ont la priorité. Les voitures sont autorisées à les emprunter, mais à condition de rester derrière les cyclistes. Prochaine étape, un projet d'autoroute à vélo de 30 millions d'euros qui doit permettre de relier toutes les communes de la première et deuxième couronne.
Y aura-t-il de nouvelles pistes cyclables à Bucarest ? Rien n'est moins sûr, tant les dysfonctionnements politiques locaux semblent mimer la crise politique nationale. Résultat, la capitale roumaine détient un triste record, Benjamin Ribou.
La Roumanie est le pays qui compte le plus grand nombre de cyclistes tués dans un accident de la route par million d'habitants, alors même que seulement 5% des Roumains se déplacent à vélo. Principale explication, l'absence d'une infrastructure adéquate. À Bucarest notamment, pourtant la capitale du pays, les pistes cyclables font cruellement défaut. Les politiques de mobilité sont notoirement défaillantes. Chaque année, depuis 2016, le gouvernement débloque 10 millions d'euros pour que la mairie de Bucarest étende le réseau de pistes cyclables existant. 48 km de pistes supplémentaires censées compléter les 7 km existants actuellement et réservés au seul centre-ville. Sauf quand qu'encore une fois, il n'est pas sûr que le projet aboutisse. La raison officielle, un blocage administratif. La mairie n'est tout simplement jamais parvenue à déposer un projet valable dans les délais impartis. Mais il y a peut-être une autre explication, car ces nouvelles pistes devraient empiéter sur le territoire des voitures. Une bonne partie des 8 millions de voitures que compte Bucarest pour 2 millions d'habitants se garent en effet de manière anarchique sur les trottoirs. Faire d'autres pistes cyclables poserait forcément un gros problème à la mairie. Les associations de cyclistes, elles, militent pour de vraies pistes sur la chaussée, d'autant que la mairie avait commis la même erreur il y a 10 ans en faisant 122 pistes entièrement sur les trottoirs. La police les avait finalement démantelées, car dangereuses.
Viva la mamma, viva le donne con i piedi per terra, le sorridenti miss del dopoguerra, pettinate come lei. Angeli ballano il rock, ora tu non sei un sogno, tu sei.
Et nous commençons aujourd'hui notre nouvelle chronique sur un mot, une expression qui nous éclaire sur un pays, un phénomène de société. Et on commence par le mot italien mamone, un mot presque intraduisible, mais qui en dit long sur les rapports homme-femme, mère-fils, belle-mère, belle-fille. Bref, mamone, c'est un peu le fils à maman, mais c'est bien plus que ça. À Milan, Franceline Beretti a cherché à comprendre ce qu'était vraiment un mamone.
La première fois que j'ai entendu mamone, c'était pour désigner un petit garçon, toujours dans les jambes de sa mère. Puis j'ai entendu une femme de 65 ans se plaindre de son mari mamone. Alors c'est quoi exactement ?
C'est l'archétype du mec qui ne veut pas prendre des responsabilités. Mamone, ça vient de mamma, et donc il est très attaché à sa mère. Et il peut être marié, mais très souvent, il cherche la même relation avec sa femme. Il va remplacer sa mamme avec sa femme.
Mamone est donc formé de mamma, la maman, et de one, le suffixe de l'emphase. En grammaire, suffixe augmentatif.
Et alors, ça veut dire quoi, mamone ?
Un mamone, c'est donc celui qui a une grosse maman au sens où elle prend beaucoup de place.
Le mamone, c'est l'italien typique, jusqu'à la fin de la vingtaine. Ça peut être un trentenaire d'ailleurs. Il est très attaché à sa mère, il n'a jamais coupé le cordon ombilical. Toutes les décisions sont prises par sa mère.
Et tu en connais ?
Ouais, plusieurs, mais pas moi, hein, évidemment.
Attention, le mamone n'est pas un tanguy. Un jeune qui ne veut pas quitter le cocon familial. Non, on peut être mamone tout en ayant fondé sa propre famille. À quoi ça se reconnaît alors ?
La domenica, tous les dimanches, il va déjeuner chez sa mère. S'il a un problème, il appelle sa mère.
Si tu dois choisir une maison, l'opinion de la mama est importante. Même pour choisir une destination de vacances, la vie de la mère compte.
Et quand le mamone est marié, bon courage.
Tu es comparé à la mamma en permanence. C'est la valeur de référence pour tout. Tu entres en compétition avec la mamma dans tous les domaines. Et c'est impossible, parce qu'elle cuisine forcément mieux.
Toi, tu en as connu ?
Bien sûr, et comment ?
Et c'est un problème à prendre au sérieux, le mamone.
Oui, si j'en crois la presse féminine. Voici quelques articles parus récemment. Que faire si votre fiancé est un mamone ? 5 conseils pour gérer et changer un mamone. Mamone, les signes qui ne trompent pas. Comme vous ne lisez pas forcément l'italien, j'ai demandé des conseils aux milanaises.
Ce que doit faire une femme qui a épousé un mamone ?
Elle le quitte.
Elle a épousé sa mère, elle doit en être consciente.
Exact, donc elle le quitte.
Ces expertes sont formelles. On ne change pas un mamone, car la mamma travaille ses fils depuis la toute petite enfance pour qu'ils ne trouvent pas mieux qu'elle. À ce jeu, vous ne gagnerez jamais.
Merci Franceline Beretti à Milan. Accent d'Europe est réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr à la rubrique podcast et sur les réseaux sociaux. À demain.